des oiseaux tristes sous un avion fidèle. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Des mots.
C'est la fin du Ferré Club. À la semaine prochaine.
Fastened to the ring, and everyone who wanted you, they found what they will always want again. Your beauty lost to you yourself, just as it was lost to them. Oh, take this longing from my tongue. Whatever useless things these hands have done, let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Your body like a searchlight, my poverty revealed. Like to try your charity until you cry. Now you must try my greed, and everything depends upon how near you sleep to me. Just take this longing from my tongue, all the lonely things my hands have done.
Bonjour à toutes et à tous, vous avez reconnu la petite musique de Charlie Brown qui introduit notre émission. Il est donc quasiment 17h, le mercredi 8 novembre 2023, vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire, une émission proposée par des passionnés du livre et de la lecture, aujourd'hui, Frédéric, qui restera muet pour cause de dentition défectueuse, Agnès, Marie, Dominique, Francis. Et aujourd'hui, notre invitée, Hélène Finet, pour son livre « La belle époque de l'anarchisme argentin » en sous-titre « Buenos Aires 1880-1920 », publié aux éditions de Création Libertaire. Frédéric, nous n'avons pas d'annonce de ton côté, je crois. Non. En revanche, moi, j'en ai quand même toute une série. Tout d'abord, vendredi 17 novembre 2023 à 19h30 à la librairie Publico, c'est-à-dire 145 rue Amelot, métro République, vous aurez le plaisir d'écouter Marie-Claire Calmu qui présentera son dernier ouvrage, Les Nouvelles du Cataclysme, publié chez Edith Inter en 2023. Il y aura un débat suivi d'un pot amical. Donc le vendredi 17 novembre 2023, 19h30, à Publico, Marie-Claire Calmu, qui nous présente souvent des poésies et que nous inviterons dans quelques temps dans notre émission. Ensuite, nous étions hier à la CGT où il y avait la présentation de différents livres sur l'histoire du monde ouvrier, etc. Et nous avons rencontré Anne Jollet, que nous connaissons bien, que nous avons invité dans le cadre de notre émission, qui est responsable des cahiers de l'histoire critique. Elle m'a passé ce petit message du 23 novembre au 15 décembre. Il va y avoir les 8e rencontres d'histoire critique à Gennevilliers sur le thème sport en jeu, en-jeu avec un X. Et particulièrement le vendredi 24 et le samedi 25 novembre, le forum des associations et des éditeurs et des éditrices à l'espace Grésillon à Gennevilliers. Donc, vous aurez des tables rondes le 25 novembre, olympisme, alter-olympisme, anti-olympisme, les sports passion et commerce, bon ménage, point d'interrogation, les sports de points à l'image des sociétés, bref, et puis le 15 décembre, sport, racisme et antiracisme. Donc, à ne pas manquer pour ceux qui sont passionnés de sport. Je poursuis. Nos amis des éditions de l'Échappée vont sortir un livre qui s'appelle « Les brasseries parisiennes de l'avant-siècle » et à cette occasion, ils organisent un festival des brasseries de l'avant-siècle. Et donc, le 17 novembre, là aussi, il y aura l'inauguration du festival à la librairie La Petite Lumière, 14 rue Boulard dans le 14e. Mais ensuite, il y aura des promenades dans Paris, dans des quartiers de Paris, avec des visites de librairies et des repas. Par exemple, le samedi 18 novembre, balade au cœur de Paris. Vous arriverez à la librairie de la main, la célèbre librairie qui est juste en face, la Comédie Française, et vous pourrez dîner au Chien qui fume, qui est un vieux café, une vieille brasserie de ce secteur. Ensuite, le 25 novembre, vous pourrez être à Montmartre avec la librairie Vendredi, 67 rue des Martyrs, elle est tout en haut de la rue des Martyrs, et vous pourrez dîner à la Mère Catherine, place du Tertre. Enfin, le 2 décembre, balade au quartier latin avec l'arrivée à la librairie Le Dilettante qui est place de l'Odéon et un dîner au Bouillon Racine. Et à chaque fois, ces balades seront réalisées, présentées par Gilles Pic, c'est-à-dire l'auteur de ce livre, je rappelle, Les brasseries parisiennes de l'avant-siècle. Nous en reparlerons. Dernière annonce. Eh oui, ça n'arrête pas en ce moment. Le lundi 4 décembre 2023, de 18h à 21h, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, rue Lobo, 5 rue Lobo, une rencontre autour d'un livre en 3 volumes, La nouvelle histoire de la Commune de Paris de 1871, l'auteur étant Jean-Louis Robert, un historien connu, que nous apprécions, qui était venu lorsque le groupe Commune de Paris avait organisé un débat à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune. Donc il y aura Jean-Louis Robert, mais il y aura aussi Claudine Rey, qui est la présidente d'honneur des Amis de la Commune. Il y aura Gilles Candard, un historien, président de la Société d'études jaurésiennes. Il y aura Quentin Duluermoz, professeur d'histoire contemporaine, qui avait fait un livre dont nous avions parlé dans la rubrique des idées et des luttes et qui avait pour titre « Commune au pluriel » avec un point d'interrogation. Et puis, il y aura une personne qu'on aime bien, qu'on avait invitée en début d'année, février de cette année, Laure Godineau, qui est aussi une spécialiste de la Commune de Paris. Bref, du beau monde. Et en conclusion, Sylvie Bréban, présidente de l'Association des Amis de la Commune, viendra tirer les enseignements ou tirer en tout cas les perspectives. Et Sylvie a aussi publié un livre sur Elisabeth de Métrieff qui a été réédité par les Amis de la Commune. Voilà donc un mois de novembre et un début décembre assez nourri. N'hésitez pas à nous envoyer des informations concernant vos initiatives, tournant évidemment autour du livre. Hein, dans cette émission, nous avons une autre émission qui concerne la musique classique. Donc là, c'est plutôt des informations sur cette musique. Mais nous, voilà. Et là, nous allons passer aux premières parties de notre émission pour alimenter le débat. Pour alimenter le débat, nous avons 3 livres. Tout d'abord, un livre d'un auteur que j'aime beaucoup. J'avais présenté son premier livre, Écriture carnassière. Il s'agit d'Hervé. Bon. Ensuite, nous présenterons, et Marie arrive juste à l'instant, un livre de Michel Desmurget, Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital aux éditions du Seuil. Et enfin, Fanny Beaucantin sur la mort. Bah oui, on est un peu dans le tempo là, et vous allez voir, c'est un livre tout à fait intéressant. Alors, tout d'abord, le deuxième livre d'Hervé s'intitule « Morsure de nuit ». Écrire un premier livre n'est jamais facile. La peur de la page blanche est un grand classique, quel que soit l'auteur, mais c'est possible. La preuve, Hervé avait présenté l'an passé Écriture carnassière et c'était un texte puissant, c'est toujours un texte puissant, je vous invite vraiment à le lire, dont je vous l'avais dit déjà, on ne sort pas indifférent. Le titre était rude, comme l'est La vie dans la rue pour les SDF, comme on les appelle, un acronyme devenu un nom. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu passes ça dans la première partie pour alimenter le débat? Eh bien justement parce que c'est aussi une manière de réfléchir sur la vie et d'entendre des mots sur la vie des SDF. Je trouve que c'est à la fois un témoignage sociologique et un témoignage personnel tout à fait émouvant. Alors ce livre avait été, le premier livre avait été remarqué, apprécié par la critique, et par nous aussi, donc dans Au fil des pages, et Hervé récidive avec Morsure de nuit, toujours publié chez Maurice Nadeau, dans la collection À Vif. Vous noterez les titres, Écriture carnassière, Morsure de nuit. On attaque et on ressent dans la chair. Il n'y a pas de mièvrerie. Et le contenu est-il à la hauteur du premier ouvrage? Dans le premier, l'auteur était plus factuel, la vie dans la rue, les ressentis, la douleur, l'amour pour ses deux enfants, ses deux poumons, comme il les appelle. Dans le second, tel un témoignage, un héritage qu'il lègue à chacune de ses filles. Des moments de poésie, de charme, des scénettes avec une part d'introspection très forte. Je vous laisse les lire. Mais il y a aussi des moments où on sent le goût le sens du portrait. C'est un art difficile en dessin, mais aussi en littérature. Quelques mots et Scallopunk nous est présenté. Plus loin, c'est au tour de Katia. Alors, Katia, page 49, j'espère que je vais pouvoir la retrouver. Oui, Katia est partie. Sans crier gare, je suis resté un peu dans le secteur, comme sur les quais, un peu malheureux d'un train qui ne viendra plus. Elle crèvera d'une overdose du côté de Saint-Michel, où elle avait trouvé de quoi se fendre le cam et de baise en mode pute. Les mots sont forts. Il y a aussi Nadia, les sans-lendemains, Dimitri, la femme du boulevard Saint-Jacques, ou celle de la cité. Des noms et des titres à l'aller au malais. Une forme, si vous voulez, de nouveau mystère de Paris. Vous savez que Léo Malais, avec Nestor Burma, avait créé le personnage de... un personnage détective un peu borderline. Et là, je trouve que Hervé pourrait s'y lancer. Ça sera un projet pour une collection de nouveaux mystères de Paris pour découvrir des arrondissements et la vie. Dans le texte d'Hervé, c'est la rage, la tristesse, la violence. Et puis à un moment, par exemple, celui du type qui offre un café à Hervé, celui-ci est en transi par le froid et par par la pluie. On n'y croit pas. Un homme sort, tout de noir vêtu, un sac à la main. Je peine à distinguer son visage quand le bip de l'ouverture, centralisé d'une voiture, nous fait de l'œil à coups de clignotant et je bredouille. Il monte dans son véhicule et il ressort, vient vers moi et me tend un gobelet du café bouillant et s'en retourne, toujours sans un mot. Eh bien, ça, c'est des moments, vous verrez, vous lirez, sont des moments intenses. Il y a un côté aussi chanson réaliste. Vous pourriez voir ces scènes en noir et blanc chantées par des filles des faubourgs. Hervé part dans son enfance, dans ce pays du Nord. Retour à Valenciennes, de très fortes pages. Celle sur le père, notamment. Évidemment, au fil des pages, on s'intéresse à l'écriture. Pourquoi écrire ? Eh bien, Hervé nous donne une piste. Nous allons du côté de la page 80. Écrire pour guérir. Me défaire de mes nuits en pays d'insomnie. Tuer le temps nocturne, doux et violent. Exister sur bout de papier, invoquer les souvenirs, s'observer par-dessus, flotter dans l'encre, vivre bien au-delà des mots dits, se saisir de se poser, griffer, vomir aussi, témoigner pour elle avec un E majuscule, vous comprendrez de qui il s'agit en lisant l'ouvrage, et de elle avec un S, et là vous comprendrez aussi qu'il s'agit de ses filles. Pallier les sommeils sans rêve, devenir translucide au monde défaillant qui a fait ma carcasse d'homme paumé. Un texte intéressant, et les passionnés que nous sommes de la difficulté d'écrire goûteront les pages intitulées « Hors le monde » dont les paragraphes commencent par « il ».« Il », c'est-à-dire « Hervé ». Et je vous lis la dernière page du chapitre, et là nous sommes page 145. « Il, Hervé, se dit que de ses carnets un jour peut-être, il en résultera quelque chose ». Il griffe sa dernière ligne d'encre sur le papier et il s'endort hors le monde. Oui, il en restera indéniablement, Hervé, quelque chose. Et puis je ne peux pas omettre sur la liste des remerciements. Alors, il y a toute une liste de remerciements qui sont très authentiques. Vous savez, d'habitude, c'est « je remercie mon éditeur », etc., etc. Mais là, vraiment, il y a de la chaleur humaine. Et la dernière phrase, enfin, le dernier paragraphe, pardon, ou l'antépénultième, est le suivant. Donc, et puis, Claire. Donc, il remercie Claire. Sans qui, trois petits points, elle et mes deux poumons, à qui toute cette charge d'écriture revient, je suis cri d'amour à écrire ce livre plein de larmes, mais aussi de petits bonheurs à y trouver. Me retrouver. Eh bien Hervé, je crois que ce second livre, j'aimerais bien dire le deuxième livre, mais en tout cas pour le moment c'est le second, est tout à fait intéressant, tout à fait à la hauteur du premier. Je rappelle donc les références. Hervé, Morsure de nuit, aux éditions Maurice Nadeau. Frédéric, je voudrais que nous passions à un morceau, mais un musical de Georges Moustaki, Rue des Fossés Saint-Jacques, justement. Tu peux y aller ? Merci. Eh bien, Marie, faites-les lire ce crétin digital là. Ah, ces mômes là. Bon, alors, j'avais eu l'occasion de rencontrer Michel Desmurget lors d'une présentation de son livre par les éditions du Seuil. Tu l'as lu cet ouvrage, alors qu'en penses-tu ?
Eh bien, il faut savoir qu'en 2019, Michel Desmurget, qui est un docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM, avait déjà publié son analyse sur les dangers que représentent les écrans pour les cerveaux des enfants à travers un ouvrage intitulé « La fabrique du crétin digital » aux éditions du Seuil. Desmurget se posait ainsi en lanceur d'alerte, hein, s'adressant aux parents, aux corps enseignants, même au gouvernement, car l'enjeu est crucial. Il s'agissait de prévenir sur un phénomène de très grande ampleur, hein, qui traverse les frontières, les années, les générations. On pense souvent que le déclin cognitif ne concerne que les personnes d'un certain âge, mais depuis plusieurs années, de nombreuses études scientifiques ont été publiées, alertant sur les liens de cause à effet entre notre environnement, notre hygiène de vie et le développement de maladies dégénératives telles qu'Alzheimer, la démence sénile. Et d'ailleurs, un excellent documentaire sorti en 2017 intitulé « Demain, tous crétins ?» point d'interrogation, démontre la nocivité des perturbateurs endocriniens et des polluants présents dans notre quotidien, puisqu'ils sont de plus en plus à l'origine de troubles mentaux congénitaux tels que le spectre autistique, la trisomie, le crétinisme et même les troubles cognitifs de l'apprentissage. Donc ça, ils sont assez nombreux, comme par exemple le trouble de déficit de l'attention ou voilà, tout simplement la baisse de QI. Donc ça, c'est surtout des troubles qui concernent les enfants et ils impactent leurs conditions de vie de manière irréversible, souvent. Outre toutes ces formes de poisons que nous sommes enclins à inhaler et ingurgiter quotidiennement, il y a bien sûr ce que nous voyons plusieurs heures par jour. Les écrans, que ce soit la télévision, les ordinateurs et tablettes, les portables, les jeux vidéo, les inventeurs de ces objets devenus depuis le début des années 2000 un incontournable, voire même un indispensable, ont sans doute bien sous-estimé l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la population mondiale, hein, notamment lorsqu'ils créent cette dépendance, au même titre que celle qui est attribuée à la dépendance liée à la consommation de tabac, d'alcool, de drogue ou de médicaments, de jeux d'argent, de sexe. Donc, lorsque la dépendance s'installe, la plupart des addictologues le disent, effectivement, la santé mentale est déjà affectée, en fait. Et nous savons que les différentes formes de dépendance chez l'adulte ont des conséquences redoutables. Hein. Mais qu'en est-il chez les enfants concernant les écrans et Internet ? Les deux sont indissociables et agissent en véritable cocktail dévastateur, notamment chez les plus jeunes qui sont les plus vulnérables. De nombreux chercheurs, institutions et associations de prévention préconisent de ne pas familiariser les écrans de la télévision chez les bambins de moins de 3 ans. Quant à Internet, ce n'est pas avant l'âge de 6 ans et le téléphone au minimum à 9 ans. Pourtant, il suffit d'observer, ne serait-ce que dans les lieux publics, les transports en commun en sont d'ailleurs le parfait exemple hein, pour étudier les phénomènes sociologiques et psychologiques. Le nombre de bébés qui, sans même savoir parler distinctement ni marcher, ont déjà la notion du doigt qui glisse sur l'écran tactile du portable de papa ou maman. Pire encore, la dépendance au portable chez certains bébés provoque des crises d'énervement et de surexcitation telles qu'il devient presque impossible de leur enlever l'objet des mains sans provoquer une situation d'hystérie presque incontrôlable. C'est à ce moment-là que le questionnement arrive. Comment un objet qui devrait paraître presque insignifiant hein, pour des cerveaux aussi matures que ceux des bébés se transforme-t-il en véritable fourche du diable, dictant ses lois auprès de parents dépassés par la situation ? Je dis bien dépassés, hein. Je n'essaye pas de culpabiliser les parents. Pourtant, il faut un petit peu leur jeter la pierre, même s'ils ne sont pas les seuls responsables de ce genre de situation. Mais ils en sont un petit peu victimes, parce que victimes d'une société où le numérique règne en maître. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreux établissements scolaires, hein, souvent dès l'école primaire, à des fins pédagogiques qui auraient fait leurs preuves. Mais bon, ça reste encore à démontrer. Mais lorsque ces enfants, de retour au bercail après une longue journée passée à l'école, demandent à leurs parents de pouvoir allumer la télé pour regarder les dessins animés intempestifs sur Gulli ou Disney Channel, ou encore la tablette pour regarder des vidéos sur YouTube avec ou sans accord parental installé dessus, le portable pour jouer à des jeux vidéo, bien sûr, les parents, exténués par leur dure journée passée au travail, cèdent aux caprices. Bien sûr, puisque ça leur permet d'avoir la paix ou au moins quelques instants de répit avant le coucher de leur progéniture. C'est le constat quand on sait que de plus en plus d'enfants entrant au collège n'ont pas pu acquérir les bases essentielles de lecture, d'orthographe, de grammaire et même de mathématiques, puisque rien qu'en France, le niveau est au plus bas ces dernières années. La faute aux écrans ? En grande partie oui, car les écrans stimulent les fonctions cérébrales, mais également l'énervement et l'impulsivité. Tout dépend en fait de ce qui est regardé. Si ce sont des jeux vidéo ou des films avec des images et des sons de plus ou moins excitants ou violents pour l'œil et l'oreille, qui sont directement reliés au cerveau, je le rappelle, ou si ce sont des visuels et des fonds sonores plus doux, donc plus propices à la mémorisation, au développement des sens ou à la créativité de l'enfant, tout dépend de ce qui est regardé. Mais depuis peu, on observe que le fameux TDA, le trouble déficit de l'attention, est en constante augmentation chez les jeunes. Il anime et inquiète les équipes pédagogiques, car non seulement son diagnostic est complexe, mais ses causes sont encore mal connues. Il est d'ailleurs confondu avec les troubles DIS, dyslexie, dyscalculie, etc., ou encore la phobie scolaire. Même si les écrans ne sont pas forcément la cause, car chaque cas est différent, ils ne peuvent qu'aggraver ces troubles d'apprentissage qui accentuent les difficultés scolaires des élèves concernés, ces derniers n'ayant pas un potentiel intellectuel moins élevé que d'autres, hein, bien sûr, mais ils sont en revanche ils ont davantage de mal à stimuler leur concentration. Ainsi, ces enfants présentant ce trouble vont fournir un double effort pour suivre une heure de cours ou pour apprendre une leçon et vont donc davantage se fatiguer. Le travail de Michel Desmurger dans cet ouvrage permet de répondre à toutes les problématiques évoquées précédemment, puisqu'il met en avant aussi bien les bienfaits de la lecture, donc oui, que la manière en fait de pouvoir bénéficier en fait de tout ce que peut apporter donc la lecture dès le plus jeune âge. J'ai eu d'ailleurs l'occasion un jour, en passant devant un rayon de littérature jeunesse d'une librairie, de lire cette véridique phrase inscrite sur un mur, enfin je dirais plutôt une citation, « Un enfant qui lit est un adulte qui réfléchit ». Quels que soient les supports, de la bande dessinée en passant par le manga, les romans classiques de littérature ou même les articles de journaux et de magazines, voire des ouvrages plus thématiques, la lecture est une activité extrêmement bénéfique pour le cerveau, et ce, à tout âge. Mais son rôle est primordial chez l'enfant dès lors qu'il entre dans un cycle d'apprentissage qui, à condition d'être bien alimenté et enrichi, deviendra un pilier de connaissances qui amènera progressivement l'esprit à mûrir, à développer un certain esprit critique, à appréhender le monde d'hier et d'aujourd'hui et de demain, puisque les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir. Et l'auteur insiste également sur le rôle important de l'éducation parentale et scolaire. Dès leur plus jeune âge, les enfants doivent être habitués à entendre des histoires lues ou racontées par leurs parents. Ils doivent également être sensibilisés tôt aux subtilités de la langue, notamment la langue française qui en regorge. Hein. Il faut qu'ils puissent décoder cette langue écrite et orale, mais tout cela à leur rythme, évidemment. Car, rappelons-le, la lecture n'est pas une connaissance héréditaire. À la différence de parler, de marcher, c'est quelque chose qui s'alimente constamment, et ce, à tout âge, mais de préférence dès l'enfance.
D'accord.
Voilà.
Donc, ça, c'est l'enseignement donc,
oui.
qu'on peut tirer de ce livre.
Oui.
Tu nous rappelles le titre ?
Oui, tout à fait. Donc, faites-les lire. Pour en finir avec le crétin digital, comment la lecture stimule l'intelligence de nos enfants, aux éditions du Seuil, donc par Michel Desmurget et paru en septembre 2023.
Très bien, merci. Alors, une autre thématique, mais c'est peut-être notre invité qui nous appelle là. Frédéric, oui ? C'est notre invité, c'est Hélène. C'est Hélène. Donc, si tu peux proposer à Hélène de venir à l'antenne. Allô, Hélène Finel ?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est gentil de nous appeler maintenant. Donc, on va passer une demi-heure ensemble sur votre livre, là, La belle époque de l'anarchisme argentin, avec en sous-titre Buenos Aires, 1880-1920, aux éditions Atelier de création libertaire.
Alors, voilà.
Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse en histoire latino-américaine contemporaine à l'Université de Pau, des Pays de la Dour. C'est une des raisons pour lesquelles on procède par téléphone. Vous êtes spécialiste des femmes et de l'anarchisme argentin. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages et articles sur la thématique qui nous occupe là aujourd'hui. J'ai cru comprendre aussi que vous étiez une militante. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette étude-là sur la belle époque de l'anarchisme argentin ?
Alors donc j'ai milité une dizaine d'années au sein de la CNT française et au cours de mes voyages en Argentine où j'ai de la famille et puis un certain nombre de compagnons et compagnons anarchistes, j'ai pris part à des activités liées donc au monde libertaire en Argentine et donc j'ai mené à bien donc ma thèse de doctorat qui a pris une dizaine d'années et je me suis rapprochée des pratiques libertaires argentines ainsi que donc de l'idéologie, ce qui m'a fait abandonner progressivement l'anarcho-syndicalisme et donc à ce moment-là je suis sortie de la CNT. Et donc, en fait, cette passion pour l'anarchisme latino-américain, elle remonte aussi à 1996, quand j'avais fait un long mémoire de maîtrise sur le communisme libertaire de Ricardo Flores Magón au Mexique. Et ensuite, je me suis naturellement tournée vers la FORA en Argentine, parce qu'il n'y avait absolument aucune étude sur le sujet en France. Alors que la FORA, avec ses sociétés de résistance, était au début du XXe siècle l'organisation continentale la plus puissante et qui comptait le plus grand nombre d'adhérents concernant donc l'anarchisme en Amérique latine. Donc j'ai fait un travail de restitution historique qui s'est imposé comme nécessaire pour rétablir les choses et donc faire connaître aux compagnons français cette expérience que je qualifie d'unique en fait. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on connaît assez peu en France l'histoire de l'anarchisme argentin, oui. Je veux dire même l'histoire de l'Argentine. Hein. Or, pourtant, l'Argentine comptait sur la scène internationale. Par exemple, des communards se sont réfugiés dans ce pays après la Commune, et puis vous parlez de voyages de responsables politiques français comme Jean Jaurès, et bien évidemment les Espagnols, les Italiens ont fait le voyage. Mais pourquoi cet oubli, d'après vous, en France?
Bon, alors, effectivement, hein, il a été peu diffusé, hein, ni à travers des brochures, ni à travers des journaux, que ce soit en France ou en Espagne. Alors, moi, j'avance peut-être la thèse d'un certain européocentrisme, d'un point de vue historique, ce qui fait que, bon, les Européens ont quand même toujours été centrés sur eux-mêmes, ils ne sont pas forcément intéressés aux formes d'anarchisme qu'il pouvait y avoir ailleurs. Hein. Et c'est bien dommage, hein, parce qu'il y a un facteur essentiel dans l'anarchisme argentin, qui est le facteur migratoire. Donc, effectivement, il y a des communards qui vont arriver, réfugiés là-bas à Buenos Aires. Et ils vont même fonder une section donc, de l'AIT, écrire dans des journaux, etc., etc. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais par exemple, parmi les militants anarchistes, il y a quand même la présence fondamentale de Malatesta, va contribuer activement à la formation d'un mouvement anarchiste organisé.
Ces anarchistes, ils sont très prolifiques, ils écrivent, ils structurent. Alors, il y a un mouvement original, la FOA ou la FORA. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont l'air aussi très impliqués dans la société argentine.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, dans les années... l'immigration, et puis les premières... les prémices de l'anarchisme argentin, ça commence dans les années 1870 à travers les cercles anarchistes, les athénées libertaires, etc., etc., les traductions, les brochures, voilà. Et dans les années 1890, en fait, on fait face à un débat assez acharné entre les partisans et les détracteurs de l'organisation. Voilà, une organisation anarchiste organisée ou pas. Alors, c'est finalement les premiers, donc les partisans de l'organisation, qui vont structurer ce qui s'appelle d'abord la FOA, donc la Fédération Ouvrière Anarchiste en 1901, qui va aussi compter des militants socialistes. Ce qui peut paraître antithétique, mais en fait pas du tout dans le contexte.
Hein, oui, il y a une forme de complémentarité, j'allais dire. Enfin, oui. C'est pas la haine farouche qu'on a pu connaître dans d'autres pays entre les deux sensibilités.
Non, pas du tout. Justement, en fait, ils occupent un même espace politique et culturel. Évidemment, il va y avoir des débats un petit peu endiablés parfois par presse interposée au niveau des conférences, etc., mais ils évoluent dans cette même mouvance en fait. Donc on a la FOA en 1901 qui va rapidement remporter un vif succès dans le monde ouvrier, et c'est en 1904 qu'est finalement créée la FORA, donc la Fédération Ouvrière Régionale Argentine, à tendance véritablement anarchiste, et qui va contribuer à cimenter ce que j'appelle les sociabilités ouvrières dans les quartiers de la capitale. Sa particularité, c'est qu'elle fonctionne sur les sociétés de résistance, qui est une forme d'organisation absolument unique dans l'histoire de l'anarchisme international. Donc on a des sociétés de résistance, des boulangers, des chauffeurs de bus, des ouvriers du port, etc., etc. J'insiste sur le fait que ce ne sont pas des syndicats, on appelle ça société de résistance.
Et alors, ils sont surtout dans la classe ouvrière, dans les banlieues, vous dites, dans les quartiers, mais dans la paysannerie.
Alors, dans la paysannerie, au début, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, si vous voulez, le noyau, c'est Buenos Aires, alors que dans la paysannerie, c'est plutôt à partir de la moitié des années 1910 qu'on aura un ancrage dans les campagnes, à travers la lutte des peones, qui sont des ouvriers agricoles, en particulier en Patagonie, au sud de l'Argentine, et dans la région très pauvre du Chaco, là cette fois-ci c'est au nord. Et donc en Patagonie, hein, il va y avoir des grèves très importantes contre les grands propriétaires terriens qui exploitent bien sûr ces ouvriers agricoles. Grèves qui seront réprimées dans le sang. Donc là, on pense au récit hein, de l'historien, hélas décédé, hein, Osvaldo Bayer, sur la Patagonie rebelle. Hein, bon, c'est ouvrage traduit hein, en français par l'atelier de création libertaire.
Oui.
Et donc cette répression est menée par le général Roca, qui sera assassiné par l'anarchiste allemand Kurt Wilkens au début des années 20, et connu comme le vengeur de la Patagonie rebelle et postérieurement assassiné en prison.
Mmh.
Donc, je rajoute juste, hein,
oui.
Il y a un militantisme de terrain aussi dans la paysannerie, opéré donc par des anarchistes auprès des travailleurs journaliers qui sont analphabètes pour la plupart, hein, à travers des veillées hein, à la campagne. Et ils vont aussi contribuer à diffuser l'idéal hein, en transportant dans leurs petits baluchons le long des chemins de fer les brochures libertaires de toutes sortes. Hein. Alors, il y a toute une partie là, où j'aborde ce thème dans mon livre. Hein. Moi, j'ai appelé ça le militantisme transhumant, en fait, hein, dans les campagnes. En fait.
Et voilà. Donc, on va de village en village, on suit le chemin de fer, quoi, en gros.
Oui, hein, tout à fait.
On diffuse, on vend, on parle, voilà.
Voilà.
Et puis, en ville, on va créer des centres culturels comme la Boca,
absolument,
par exemple. Alors là, c'est important, ça. C'est un lieu mythique, la Boca.
Oui, alors la Boca, elle existe encore, bien sûr. Hein.
Attendez, on ne connaît pas tout, là. Qu'est-ce que c'est que la Boca? Et puis, elle existe encore, alors?
Oui, bien sûr. Hein. Donc, c'est un quartier de Buenos Aires où il y avait une majorité, d'immigrants italiens.
Mmh.
Hein. Donc, c'est le quartier du port, hein. Où arrivaient les bateaux hein, en provenance d'Europe, hein, beaucoup d'Espagne, hein, puisqu'ils embarquaient depuis la Galice bien souvent. Et y avait une particularité, hein, c'était que pour que les immigrants ne repartent pas, en fait, on faisait couler les bateaux hein, dans le port de Buenos Aires. En fait.
J'ai déjà entendu ça dans des légendes de la mythologie.
Oui, tout à fait. Et bon, après, donc du coup, alors la particularité de la Boca, c'est que bon, c'est vraiment très ouvrier et très très pauvre au début du siècle. Et justement, ils construisent des espèces de maisons de fortune, si vous voulez, avec les carcasses des bateaux, les tôles et puis les morceaux de bois, et ils vont les peindre de toutes les couleurs. Alors c'est resté comme ça. Bon, il y a un petit quartier un petit coin là qui est devenu touristique, mais sinon la vraie Boca, elle est toujours là, et elle comportait tout un nombre de sociétés de résistance, hein, des sociétés maritimes, des ouvriers du port pour la plupart. Et aujourd'hui, elle abrite toujours hein, le siège de la Fora, hein, qui est donc toujours active, même si elle comporte moins de militants, mais ça j'en parlerai après. Donc
mais
la Boca, c'est vraiment le...
C'est un centre culturel, alors?
Oui, tout à fait.
Ou politique, ou... Enfin, il y a
les deux. Hein.
Oui.
De toute façon, dans tout le militantisme anarchiste argentin, la culture et la politique sont fondamentalement liées. Hein. Il n'y a pas de séparation, en fait. C'est à travers la culture qu'il y a ce prosélytisme qui va permettre hein, aux ouvriers d'accéder hein, à l'idéologie et de se former hein, politiquement, en fait.
Oui.
Voilà.
Et alors... il développe des associations, les sociétés de résistance. Vous parlez de celle des typographes, par exemple. C'est une des plus anciennes, je crois.
Oui, c'est une des plus anciennes, hein, puisque on a le typographe qui s'appelle Bartolomé Suarez, qui va arriver en 1857, si je ne me trompe pas. Et les typographes sont souvent considérés un petit peu comme les intellectuels hein, de la mouvance anarchiste, puisqu'en fait, c'est eux qui vont concrètement diffuser l'idéal à travers l'édition hein, des nombreux journaux en fait et brochures. Hein, bon, c'est la même chose hein, en Espagne hein, de toute façon, mais les typographes ils sont là très tôt et très tôt ils vont réaliser tout un travail de diffusion absolument monumental en fait. Mm-hmm.
Vous pouvez nous parler de Malatesta. Il y publie notamment la Questione Sociale.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors bon, il arrive en Argentine, il est expulsé d'Italie par le régime en place, et il va vraiment jouer un rôle prépondérant, hein, ce que je disais au début, dans la constitution d'un mouvement anarchiste organisé. Pour lui, il faut que ce soit une organisation et non pas toute une série de petits groupes qui fonctionnent pas forcément ensemble. Hein. Pour lui, il faut vraiment une organisation. Et il va contribuer justement, par exemple, à la création de la société de résistance des boulangers, hein, mm-hmm. qui est l'une des premières aussi, hein, après les typographes. Malatesta, il entreprend, hein, bien sûr, la publication de la Questione Sociale, qui comporte, et je le dis, c'est important, une section sur les femmes, en fait, hein, propagande anarchiste entre femmes. Hein, donc c'est un petit peu les premiers textes hein, qu'on a sur les femmes qui paraissent dans l'anarchisme argentin. Alors le journal va être publié en italien, mais aussi en espagnol. Hein. Voilà, pour qu'il y ait plus d'accessibilité hein, pour les militants en fait. Hein. C'est totalement fondamental. Hein. Mm-hmm.
Et alors bon, autant le 1er mai, alors autant pardon, il y a une complémentarité, un socialiste anarchiste, bon les gens discutent. Autant le 1er mai, c'est un point fort, c'est un moment de lutte ou c'est une fête. Et puis vous relevez notamment le 1er mai 1907 comme étant un symbole.
Mm-hmm. Oui,
donc
d'ailleurs
cette question de la lutte ou une fête, on retrouvera ça dans le mouvement ouvrier français. Alors pourquoi c'est un symbole? Qu'est-ce qui se passe là dans ce moment-là?
Oui, alors donc, comme vous avez dit, hein, ce n'est pas un jour de fête, comme le disent les socialistes, mais c'est bien un jour de lutte hein, oui. En commémoration de l'assassinat des martyrs de Chicago. Mmh. Et en 1907, on se trouve en pleine grève des locataires, hein, la huelga de inquilinos, ça s'appelle. Ce qui est intéressant, c'est une lutte qui est aussi portée par des femmes, hein, comme la militante Juana Ruco Güela. Hein, à ce moment-là, ils sont en train de protester contre la cherté des loyers, alors que voilà, tous ces ouvriers vont s'entasser dans ce qu'ils appellent les conventillos, hein, qui sont des espèces de maisons coloniales qui comportent un patio et où les familles vivent dans des chambres en fait, hein, dans des conditions totalement précaires et misérables. Hein. Donc là, il y a un investissement de la rue, hein, une territorialisation de la lutte qui est absolument exceptionnelle. Hein. Ils vont quadriller la ville. Hein. Moi, j'avais fait dans ma thèse un plan hein, en fait du tracé des manifestations. Et là, en 1907, c'est absolument magistral. Hein.
On a parlé de la place des femmes dans les luttes, là, on vient de le dire à l'instant, et il y a notamment un journal féministe, La Voix de la Femme.
Oui, tout à fait, La Voix de la Mujer, La Voix de la Femme. Alors, celui-là, il est vraiment très, très, très important, puisque c'est le premier journal anarcho-féministe du continent latino-américain. Mmh. Il va sortir entre 1896 et 1897. Il est animé par un groupe de femmes, hein, c'est un journal écrit par les femmes et pour les femmes, et ça reste une entreprise tout à fait originale hein, et encore inédite à ce jour. Hein. Elles ont des prises de position très très affirmées et elles vont même jusqu'à critiquer hein, certains hommes du mouvement anarchiste qui les invisibilisent, hein, pardon, qui les méprisent hein, quelque part. Puisqu'elles sont mises à part hein, dans la militance, le militantisme, pardon. Et d'ailleurs, bon, moi, j'ai traduit hein, une série de textes issus de ce journal hein, dans un petit livre qui porte le même nom aux éditions Nada. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu plus loin ce que ça pouvait donner, mais c'est vraiment une entreprise très très originale.
Voilà. Mmh. Alors ils ont, les anarchistes ont eu, certains bon, aimeraient bien que les femmes restent à leur place à la cuisine, non ?
Voilà, exactement. Hein,
bon, tiens, ça rappelle une citation d'un penseur français, anarchiste par ailleurs. Et puis, ils ont aussi une certaine méfiance à l'égard des intellectuels. Pourtant, on n'arrête pas. Il y a des revues, des bibliothèques, des athénées. Enfin, quand je livre, quand j'ai lu ces pages, là, je suis fasciné par la profusion dans le domaine culturel. Mais il y a cette méfiance à l'égard des intellectuels, notamment, alors, qui est un certain. Alors, je ne le prononce pas comme il faut, bien évidemment. Giraldo.
Oui. Alors, Alberto Giraldo, comment dire, j'ai prononcé en Argentine. Alberto Giraldo, en fait, c'est un militant et c'est un homme de lettres, hein, si vous voulez, qui va diriger La Protesta, qui est donc le quotidien anarchiste en Argentine, hein, le plus diffusé. Sous sa direction, alors il va y avoir tout un tas de textes assez élaborés, hein, qui vont être publiés. Et il va publier aussi une revue, hein, qui s'appelle Martin Fierro, hein, qui reprend la figure du gaucho au 19e siècle, mais en lui donnant, hein, une tendance anarchiste. Et là, il va y avoir tout un tas d'intellectuels, voilà, qui vont écrire, dans cette revue. Giraldo, il a vraiment, une grande importance dans la diffusion, d'un anarchisme un petit peu littéraire aussi, hein, voilà, avec une ouverture, qui va lui donner d'autres lettres de noblesse aussi, hein. Et qui va être diffusé, hein, dans les cercles culturels et puis dans ces fameuses veillées où on va lire les textes, hein, parce qu'il y a beaucoup, comme je le disais, des ouvriers qui sont analphabètes, hein, des veillées ouvrières où il y a aussi des femmes, hein, qui sont présentes, et les textes de Giraldo et de la revue Martin Fierro vont être lus à ce moment-là, hein. C'est au moment où on parle d'âge d'or, hein, si vous voulez, de l'anarchisme, hein, dans la première décennie. En fait.
Et en vous lisant, on a l'impression de vivre dans une contre-société, c'est-à-dire que il y a deux sociétés qui vivent comme ça. Mais comment réagit la bourgeoisie, l'État? Il laisse faire?
Alors au début, il laisse faire. Il se préoccupe pas trop, en fait, hein, de cet anarchisme qui est en train de monter, parce qu'il y a une espèce de mépris. L'État et les oligarchies vont ignorer toute cette frange, hein, des secteurs populaires, jusqu'à ce que la police commence à infiltrer, hein, les réunions et les cercles de militants.
Ça, c'est un grand classique.
Voilà, oui, on a la même chose, hein, en France, par exemple. Hein, et par contre, hein, ils vont se... l'État, hein, va se fâcher et va réprimer très, très durement, hein, lors de la Semana Roja, la Semaine Rouge de 1909, hein, et en 1910 également. Donc, au mépris, va succéder une répression complètement féroce, dirigée contre les anarchistes qui ont réellement un rôle hégémonique, hein, lors de cet âge d'or. Hein.
C'est de cette période que date la loi de résidence.
Oui.
Vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que cette loi de résidence, parce que c'est un peu abstrait.
Oui, tout à fait. Alors, la loi de résidence, elle sort en 1902. Elle est clairement destinée à expulser les militants anarchistes issus de l'immigration, c'est important, même si finalement, hein, leur nombre ne sera pas aussi conséquent qu'on aurait pu le penser. Mais c'est une loi qui est un spectre qui fait peur, hein. Et elle va se doubler en 1910 de ce qui s'appelle la loi de défense sociale, hein, qui a pour but, en fait, de réprimer à grande échelle, là aussi, les militants issus de l'immigration, mais pas forcément, hein. Donc là, la répression prend de l'ampleur et elle est institutionnalisée à travers ces deux lois. Hein, voilà.
Oui, d'accord. D'accord. Et alors, après, on a l'ouverture de la République avec les élections,
oui.
Qui va changer la donne. Alors évidemment, les ANAR rejettent ce processus, oui. mais que faut-il faire? Il faut réinvestir la rue? Que va-t-il se passer?
Oui, alors bon, évidemment, hein, c'est un pavé dans la mare pour eux, hein, en 1916, avec cette loi Saïd-Peña. Hein,
parce que les socialistes vont investir les élections, hein. Enfin le dispositif institutionnel.
Hein. Oui, tout à fait. Hein, bon, ils se positionnent très vite, hein, à l'instar de, par exemple, un militant qui s'appelle Enrique Dickman. Hein, c'est ce qui est intéressant, et bon, c'est ma position, hein. Mais pour moi, l'anarchisme ne meurt pas après la répression de 1910, puisque, et malgré cette loi sur les élections, ils vont organiser des contre-campagnes, hein, qui vont se matérialiser à travers des manifestations qui vont sillonner la ville et ses lieux symboliques.
Oui, hein, vous l'expliquez bien, ça. Oui, ça, c'est important, les lieux symboliques, là, tout à fait, oui. Mais voilà. Alors, cet âge d'or 1880-1920, ça comblait finalement un déficit démocratique, parce que on peut pas dire que c'était très démocratique l'Argentine à cette période-là.
Non, bien sûr que non. Comment dire, alors ce qu'il y a, c'est que comme la plupart des pays latino-américains qui ont obtenu leur indépendance en fait au 19e siècle, il y a vraiment un problème de gouvernance politique. L'État va continuer à fonctionner, hein, sur des structures archaïques, hein, parfois même héritées, hein, de l'époque coloniale, en fait. Hein.
Oui, il n'y a pas de classe politique véritablement.
Non. Par exemple, une ignorance totale de la question sociale, hein, qui va être posée par les anarchistes très très tôt. Et les anarchistes vont s'engouffrer dans cette brèche et se positionner là où l'État est absent. Hein, ils vont vraiment pallier un manque et fonctionner, à côté. Alors moi, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse une contre-démocratie, hein, démocratie où on l'entend, hein, dans le sens politique, habituel. Hein, mais ils vont faire cette espèce, comme vous disiez tout à l'heure, de contre-société.
Oui. Hein.
Voilà. Donc, et c'est ça qui est intéressant, et de façon naturelle. Hein, les secteurs populaires et ouvriers vont adhérer à l'anarchisme, hein, que ce soit des ouvriers issus de l'immigration ou des ouvriers nés en Argentine. Voilà.
Et puis alors en 1917, il y aura le choc de la révolution soviétique.
Certes.
Est-ce que, comme en France, ça ne va pas troubler les anarchistes argentins? Est-ce que certains ne vont pas se dire, finalement, une lumière se lève, alors pour le coup à l'ouest, chez eux?
Oui, à l'ouest. Alors, en fait, évidemment, hein, la révolution russe va avoir un éclairage, hein, chez les anarchistes argentins. Donc, certains, hein, vont adhérer, hein, à cette idéologie, mais pas assez pour déstructurer le mouvement. Hein. Alors, les partisans, hein, de la révolution d'octobre sont appelés les caméléons, hein, par les anarchistes de la fora du 5e congrès, hein, qui est la fora originelle. Hein. Le terme d'anarcho-bolchevisme, hein, qu'on trouve dans la presse, hein, est assez antithétique et contradictoire, hein, d'un point de vue de la sémantique idéologique. À part quelques revues, quelques brochures, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un rayonnement, hein, si vous voulez, comparable à ce qui a pu se passer ailleurs.
Voilà. Et alors, aujourd'hui, les anarchistes sont-ils encore actifs en Argentine? Il y en a encore?
Alors, il y a encore, bien heureusement, des militants anarchistes. Alors, bon, parler de la FORA, hein, il y a peu de militants, mais elle est toujours, elle existe toujours, hein, son local existe toujours.
J'imagine qu'au moment de la dictature, ils ont dû sacrément souffrir.
Voilà, ça a été très très compliqué, hein, puisqu'il y a eu une persécution absolument très très forte, et donc pour certains, ils ont été assassinés, disparus, puis assassinés. Ils ont dû beaucoup se cacher. Donc ça a été effectivement très très compliqué. Mais ce qui est intéressant à l'heure actuelle, hein, c'est qu'on a un anarchisme qui épouse différentes formes, si vous voulez. Hein. On a ils ont réinvesti, hein, cet espace politique qui leur avait été nié pendant la dictature précisément, Et par exemple, dans les années 90, on a une sorte de renouveau à travers des squats politisés, des revues, des cercles militants qui germent un petit peu partout, avec une jeunesse qui est très très active. Et on a aussi, par exemple, à Buenos Aires, deux grands centres de recherche et de conservation de la mémoire libertaire que sont la Bibliothèque José Ingenieros, qui est active via des publications, des conférences, etc., et la Fédération Libertaire Argentine, bon, même si des positions divergent parfois, mais ce sont deux piliers, si vous voulez, de la diffusion de l'anarchisme, en tout cas en Argentine. C'est vraiment, l'anarchisme en Argentine a réussi à s'adapter à la réalité politique et économique du pays. Et on a aussi, plus récemment, donc, depuis la crise de 2001, l'insertion des militants anarchistes, par exemple, dans les mouvements de travailleurs au chômage, qui vont prôner l'horizontalité dans les luttes, oui. Et qui vont investir les bidonvilles, à travers des formes d'organisation, comme je l'ai dit, horizontales, et qui viennent, là encore, comme au début du siècle, pallier un déficit démocratique.
Alors, vous avez... Donc, c'est un champ. J'ai trouvé, d'ailleurs, que... Parce que l'ouvrage que vous avez présenté dans ces éditions de l'Atelier de création libertaire, il n'est pas trop volumineux. Je veux dire, ce n'est pas le pinsum de 800 pages. Il est hyper synthétique. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, évidemment. Vous avez d'autres projets d'ouvrages, d'articles sur ce même thème ou d'autres ?
Alors là, j'aimerais bien publier un texte que j'ai déjà rédigé, en fait, sur une militante anarchiste argentine un petit peu originale, entre guillemets, qui s'appelle Salvadora Medina Onrubia, qui est donc une militante qui a écrit dans le journal La Protesta et qui a écrit également des pièces de théâtre. Où elle défendait son identité de genre, puisque elle est femme, mais elle est lesbienne aussi, ce qui était très mal vu à l'époque, y compris dans les mouvements anarchistes. Et j'aimerais bien publier quelque chose sur elle.
Il y a un éditeur en perspective ou c'est les ateliers, c'est l'atelier de création?
On est en train d'en parler avec l'atelier. Bon, il y a eu un petit article dans le journal Casserole. Qui vient de sortir sur cette femme. Mais c'est vrai que j'aimerais bien publier sur elle, parce que bon, c'est un peu dans la continuité de ce que j'ai fait sur les traductions de la voix de la femme, puisque bon, j'ai une orientation aussi sur l'anarcho-féminisme, donc ce serait quelque chose qui me plairait, en fait, en tout cas.
Vous nous faites signe dès que l'ouvrage est quasiment sorti pour qu'on puisse en parler. Hélène, merci pour cet échange. Donc je rappelle,
c'est bien normal.
Le titre, La belle époque de l'anarchisme en Argentine.
En Argentin.
Et en sous-titre, Buenos Aires, 1880-1920, publié aux éditions Atelier de création libertaire. Et je rappelle que j'ai aussi fait un commentaire de ce livre sur le site du Monde Libertaire, dans la rubrique des idées et des luttes. Eh bien, merci Hélène, et puis à bientôt, alors, pour un autre livre.
Eh bien, j'espère, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Frédéric, est-ce que nous pouvons passer Alberto Ginastera?
En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama al que va penarse Vidal y Tay. Los moribundos del alma para no pensar
por te una noche cita vitalita y me quedé bien dormido.
Nous allons passer maintenant à un livre qui nous a beaucoup plu aux éditions À Propos. Mémoire d'un éléphant blanc, on aime bien les éditions À Propos parce que ces éditions présentent des livres d'une qualité de texte forte, mais en même temps, elles ont une très belle qualité de mise en page, de présentation. Donc, Agnès, Mémoire d'un éléphant blanc, qu'en est-il ?
Mémoire d'un éléphant blanc a été écrit par Judith Gauthier et surtout illustré par Alphonse Muchat ou Murat, je ne sais pas, c'est comme on veut, et Pierre Ruti. Et effectivement, il est paru aux éditions À Propos. Judith Gauthier, en fait, a écrit ce conte pour enfants. C'est une écrivaine qui a été oubliée, qui est née en 1845 et qui est décédée en 1917. Et c'est aussi la fille du plus célèbre Théophile Gauthier, en fait. C'est la première femme, en tout cas, à entrer dans l'Académie Goncourt. Et elle fut connue pour ses poésies, pour ses critiques musicales et artistiques et ses traductions de poèmes orientaux. En effet, Judith Gauthier étudiera le persan, le chinois et le japonais. De là sa fascination pour ces pays d'ailleurs, qu'elle décrit du reste dans le conte comme des paysages et palais presque familiers tant leurs descriptions sont précises.
Alors pourquoi Mémoire d'un éléphant blanc ?
Est-ce que dans la culture bouddhiste, l'éléphant blanc est considéré comme un symbole de fortune et est souvent l'apanage des rois et des reines ? Ils sont considérés comme des joyaux et on pense qu'ils ont une origine divine et qu'ils sont d'une sagesse ancestrale. Et effectivement, cet éléphant qui nous conte sa vie au nom si noble, Iravata, quittera le royaume de Siam pour l'Inde, des Maharajas et des Anglais, à pied ou par bateau, puis en train, traversera bien des périples extraordinaires et quelquefois terribles, avec une constante empathie et écoute, autant que compassion et résignation.
Il comprend les hommes alors ?
Il obéit et écoute son maout qui le protégera. Il partira en guerre et sauvera son maître en lui offrant les offrandes du dieu Ganesh. Il entourera la petite fille du royaume jusqu'à fuir et rencontrera mille autres aventures. Oui, en effet, il comprend les hommes. Et à la lecture de ce conte, on est habité par les sentiments humains de cet éléphant, en fait.
Alors, il y a des illustrations, c'est magnifique. Le livre est magnifique. Hein.
Tout à fait. Il faut d'abord dire que ce conte est paru sous la forme d'un feuilleton de 1893 à janvier 1894 dans le Petit Français Illustré. C'était un périodique qui mettait aussi en avant le travail d'illustrateur, périodique et des éditions Collin. Et ce conte bénéficiera ainsi de splendides illustrations d'Alphonse Muchat et de Pierre Ruti. Muchat, tout d'abord, c'était un jeune artiste d'origine tchèque qui, au début de sa carrière, se fait connaître en illustrant beaucoup de livres et de périodiques. Et dans la nouvelle édition des éditions à propos, il y a 5 aquarelles inédites de Mucha de préparation pour des gravures pour l'édition première du conte. Des originaux qui sont conservés aujourd'hui au Japon, au musée Sakai Alphonse Mucha. Des scènes de jungle sur fond de temples hindous et des silhouettes humaines auprès desquelles l'éléphant blanc paraît gigantesque. C'est une magnifique étude de la faune de ces contrées lointaines, très colorées. L'autre artiste, du nom de Pierre Ruti, est plus jeune et est chargé de l'ornementation, de l'illustration des têtes de chapitres et de couvertures. Il excelle dans la répétition d'éléments décoratifs et graphiques qui inspireront beaucoup Mucha dans son travail à venir d'ailleurs. Cette nouvelle édition de Mémoire d'un éléphant permet de découvrir donc 35 illustrations, dont 7 gravures des deux artistes et 5 aquarelles de Mucha, tout aussi remarquables les unes que les autres. Bref, un conte pour enfants et adultes plein de poésie et de valeurs humaines, un petit voyage historique et initiatique dans ces régions lointaines comme l'Inde et la Thaïlande de l'époque, et enfin un petit bonheur pour les passionnés d'art nouveau et de graphisme avec ses illustrations étonnantes. Je vous invite donc à le lire et à contempler vraiment cet ouvrage. Donc, Mémoire d'un éléphant, écrit par Judith Gauthier, illustré par Alphonse Mucha et Pierre Ruti, aux éditions À propos.
C'est une édition de cette année. Et je dois dire que c'est un très beau livre et un très beau cadeau pour la fin d'année, par exemple. Merci Agnès. Je propose que nous passions tout de suite à Dominique. Dominique, est-ce que tu es bien en ligne ?
Oui, je suis bien là.
Bien, parfait. Alors, donc on a une rentrée littéraire un peu mobilisée là.
Alors, rentrée littéraire, désignation des prix. Alors, je vais vous présenter 2 livres parus fin 2023 sur ce thème. Alors, un livre très sérieux, Comédie d'automne de Jean Rouault chez Gallimard, et un plus léger et drôle, Le livre de la rentrée de Luc Chaumara, La manufacture des livres. Alors, tu as déjà présenté le livre Station Goncourt d'Arnaud Vivian. Je signale aussi que...
Aux éditions La Fabrique.
Hein. Oui, La Fabrique, et puis, oui. Et puis, il y a également un livre d'historien qui vient de paraître, 120 ans de prix Goncourt, Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, dans la collection Omnibus chez Perrin. Donc, tu vois, c'est un sujet qui mobilise pas mal.
Ça bouge sur les prix. Alors, on commence par le livre de Rouault.
Oui, alors, souvenez-vous, il avait obtenu le prix Goncourt avec Les Champs d'honneur en 1990, paru aux éditions de Minuit, qui, à l'époque, ne pensait vendre que 350 exemplaires. Et en fait, ce livre a été très bien reçu par la critique et les médias. Il a obtenu le Goncourt. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est Gallimard qui devait l'emporter cette année-là. Tous les ans, il y a les fameux favoris, d'ailleurs, comme cette année. Et c'est les éditions de Minuit qui l'avaient
emporté. On se demande d'ailleurs comment les favoris sont choisis, puisqu'on les a quasiment à l'avance. On sait que c'est tel éditeur, ça laisse rêveur quand même.
Oui,
enfin.
Oui. Mais bon, là, il n'y a pas eu de... Justement, ça a déjoué les favoris, cette année aussi. Hein. Et maintenant, Rouault publie ce livre chez Gallimard. C'est son 6e volume de la série La vie poétique.
Oui.
Et c'est son 22e livre, prouvant qu'il est un vrai écrivain, parce qu'il a eu des doutes. C'est justement ce qu'il raconte dans Comédie d'automne. Donc, il raconte ses sentiments mitigés pendant ces semaines surprenantes pour un écrivain de 38 ans issu d'un milieu populaire, inconnu, qui travaillait comme vendeur de journaux dans un kiosque. Donc il raconte la naissance d'un écrivain et d'une œuvre, sans discours sur le transfuge de classe, mais aussi ses doutes. Hein, il remet les pendules à l'heure, parce que c'est quand même pas le pauvre petit kiosquier. Hein. Il possède une maîtrise de lettres, il a choisi ce métier pour travailler à temps partiel et pour avoir le temps d'écrire.
Alors,
il se demande quand même, est-ce que j'ai été choisi pour mes qualités ou parce que j'étais kiosquier ?
Et oui, ça a été un grand débat à l'époque déjà.
Hein. Oui,
et le titre évoque une comédie.
Oui, c'est un titre très beau et très révélateur. C'est la comédie sociale, les coulisses de l'édition avec ses manœuvres qui sont dévoilées petit à petit. Le monde de c'est un monde inconnu par ce kiosquier qui est situé rue de Flandre, hein, dans le 19e. Oui. Il reçoit beaucoup de clients, notamment Albert qui jouera un grand rôle dans cette histoire. Et donc à l'époque, c'est une exception, hein, d'être kiosquier et d'avoir un concours. Et il recevra aussi honneur, mais aussi mépris, hein, car certains vont lui vouer un intérêt malsain. C'est le petit kiosquier qui a gagné le concours.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors ouais. On va rencontrer des personnalités.
Oui, alors Jean Roux révèle le rôle un peu ambigu et déconcertant de Jérôme Lindon sans le nommer. Parce que bon, l'éditeur a été dépassé par ces événements. Il voulait même pas payer un service de presse pour ce livre qu'il avait pourtant sélectionné. Mais bon, donc il n'y croyait pas vraiment. Et donc le jury qui a voulu se refaire une virginité après quelques années d'accusations de copinage. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a reproché aussi dans les années récentes. On y rencontre aussi Bernard Rapp, qui en fait c'est lui le premier qui a fait connaître ce livre, et Robert Doisneau, avec lequel l'auteur a noué de fortes amitiés.
Alors le style est plutôt classique.
Oui, c'est un style classique, balzacien. Il fait de longues phrases, belles, souples, élégantes, et il nous emmène dans son amour du métier, le métier des livres en général et de la littérature.
Donc c'est vraiment un livre intéressant, c'est un plaisir de le lire, quoi. Plaisir oui. pour la phrase, plaisir pour les mots, et l'histoire.
Et pour la découverte du monde de l'édition.
Oui, tout à fait, oui, important dans le cadre de notre émission. Et puis un autre livre maintenant, moins nostalgique et plus peut-être plus drôle.
Oui, c'est un livre facétieux. Ceux qui connaissent l'auteur ont lu L'espion qui venait du livre ou Le dernier thriller norvégien. Donc là, c'est une réflexion aussi sur le monde de l'édition, mais vraiment avec beaucoup d'ironie. Alors, on va retrouver l'histoire, on retrouve le héros qui s'appelle Delafeuille, qui est un éditeur parisien, qui est sommé par sa directrice commerciale de trouver le livre de la rentrée. Alors, le livre de la rentrée, pour elle, c'est un bon texte, c'est un texte qui se vend.
Oui, sinon il est viré, quoi, en gros.
Oui, hein, c'est ça,
le truc.
Oui. Alors, il se met en quête de dénicher une perle rare, jusqu'à passer quelques jours chez un écrivain misogyne qu'il suit depuis longtemps. Et il lui propose son dernier roman qui sera centré sur sa femme Delphine. Mais d'ailleurs, le narrateur va tomber amoureux de cette Delphine. Hein.
Oui, c'est curieux d'ailleurs, on commence à rentrer dans un monde, on ne sait plus très bien où on en est à certains moments. Hein. C'est très intéressant, je trouve, cette partie-là.
Ouais. La frontière entre réalité et fiction est trouble. Alors, l'écrivain qui est le narrateur et le héros, on va dire, porte le même nom que Luc Chaumara, il s'appelle Luc. Il fait les mêmes livres que ceux de Chaumara. Il y a des fausses maisons d'édition, mais qu'on reconnaît.
Oui.
Il y a une fausse autofiction. Donc c'est vraiment... il alterne la réalité avec de la fiction. Hein. Bon, un petit bémol, la fin, j'ai trouvé que le procédé là, de la mise en abîme n'était pas bien maîtrisé dans le dernier quart du livre. Bon, ça se transforme un peu en caricature grossière du monde de l'édition. Mais bon...
Il y a plein d'ironie quand même là-dedans.
Oui, on rigole beaucoup. Oui. C'est un ton décalé. Pour ceux qui connaissent Fab Caro, qui est aussi un auteur de BD, c'est un peu dans ce style-là. Les scènes, il y a des pics hein, sur les attentes supposées des lecteurs, les tambouilles des maisons d'édition, très éloignées de la qualité de l'écriture. Hein. Mmh. Ou les écrivaillons de confinement qui se prennent pour des génies.
Oh là là.
On crée des auteurs de toutes pièces dans l'espoir d'un coup, même si leur livre, c'est de la merde.
Oui, c'est rude.
du copinage, cet auteur...
Ah oui, le neveu.
Oui, c'est le neveu d'une des directrices. à propos, il faut dire vraiment du bien.
Mais en fait, en plus, il va faire du fric. Enfin, il va vendre.
Oui.
Ah, c'est ça. On peut peut-être lire un extrait là pour conclure. Là, c'est amusant.
Oui. Alors, je reprends la phrase, un bon texte, c'est un texte qui se vend. Bon, vous savez, comme moi, ce qui marche. Le capitalisme, c'est pas bien, ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le signifier courageusement. Quoi d'autre ? La planète est en péril, d'après ce que j'ai entendu dire. Et puis les femmes, oubliez ce que j'ai dit, les femmes qui en ont marre, c'est toujours une bonne idée. Et la maladie, le malheur sous toutes ses formes, un peu de cul, du cul féministe, évidemment. Je ne vais pas vous apprendre le métier. Ce sont les vieilles qui lisent les livres, les vieilles. Bientôt, elles seront toutes mortes. Les teenagers, non. Fais comme les autres. Fais croire que tu es progressiste et que tu votes à gauche.
Alors, ouais, c'est assez rigolo, quoi. Enfin, oui. Bon, faut prendre ça, évidemment, avec humour. Alors, oui. Tu rappelles les titres des deux livres, là.
Comédie d'automne de Jean Rouault chez Gallimard et le livre de la rentrée de Luc Chomara à la Manufacture des Livres.
Très bien, la Manufacture des Livres, très oui. bien. Merci. Alors, prochaine livraison, là,
oui.
encore deux livres ?
Non,
un seul, un seul, un seul. Ah, bon, alors quoi ?
Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, oui. c'est une auteure des Pouilles, Milena Agus, je ne sais pas si tu connais, non. Une saison douce chez Liana Lévy, parue en 2021. Mais c'est une très belle histoire, c'est l'arrivée de migrants dans un village très pauvre de Sardaigne, comment ces migrants sont accueillis et mal accueillis. Donc, c'est très très intéressant comme livre.
Parfait. Bah, écoute, merci. Merci Dominique. Merci de nous avoir proposé ces passages un peu drôles. Parce que moi, je vais aborder un sujet qui n'est pas forcément très drôle, puisqu'il c'est un livre qui s'intitule La mort. Bon. Eh bien, écoute, merci Dominique. À bientôt. Alors, nous, je vais présenter un livre que je devais initialement présenter dans la première partie de l'émission, mais bon, on a un petit peu débordé, mais c'est pas grave. Un livre sur la mort. Bien. La mort est-elle une fin ou un passage ? Les éditions du CNRS lancent une collection dans le but de transmettre les savoirs de manière simple et vivante à destination, je cite, d'un public de 15 à 95 ans. Ça vous rappelle un souvenir, 7 à 77 ans. Cette collection, à l'œil nu, histoire. La démarche est intéressante, elle allie un chercheur ou une chercheuse capable de s'adapter au plus grand nombre et une illustratrice qui met en scène toute l'histoire. Nous étions aux journées de l'histoire, justement, à Blois, journée consacrée aux vivants et aux morts cette année, et nous avons rencontré Fanny Bocantin pour son ouvrage intitulé « La mort ». Le livre porte sur un sujet sensible, avec en dédicace « À nos chers disparus », œuvre de tant de jours en un jour effacé. Certes, le thème est sérieux, il porte sur le moment d'aboutissement de la vie, la fin. On pourrait s'attendre à des illustrations fortes, à la Gustave Doré. Eh bien non, la couverture est jaune vif comme la lumière, ni noire, ni blanche, couleur du deuil suivant les cultures. L'illustratrice Caroline Gamon y dessine une fleur blanche éclatante sur laquelle repose comme en apesanteur un corps à l'état de squelette. Sur d'autres pages, une ébauche semble montrer une âme dans le ciel, un corps enterré paraît donner la vie à un arbre. Loin d'être une simple illustration de remplissage, le graphisme guide le lecteur, une très belle initiative. De même, des photos montrent des scènes, des cérémonies, des commémorations de la mort. Le texte débute par Gilgamesh, vous connaissez certainement la légende de Gilgamesh et l'enseignement, l'impuissance face à la mort. Faut-il se résigner ? Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une trace. Et c'est dans la nature humaine, mais peut-être pas que dans cette nature-là, vous lirez plus loin. Autre question, la mort est-elle une fin ou un passage, comme je le disais ? Quelle difficulté que de définir ce moment, comme le souligne Fanny Bocantin. Doit-on se limiter à l'arrêt de l'activité cérébrale ? Vous lirez les pages consacrées à l'évolution de cette définition. Définir la mort, mais c'est définir la vie, et ce qu'est l'humain. Et par expérience, je sais que la vie, la mort, la vie quitte avec s'accroche très longtemps avant de s'arrêter. Archéo-anthropologue, Fanny Bocantin présente les techniques de préparation des corps en fonction des cultures et des époques. J'apprécie particulièrement le rappel qu'elle formule. jusqu'à la mort, l'individu est une personne au sens juridique du terme. C'est le juriste là qui apprécie particulièrement. Mais une fois mort, son cadavre est un objet qui doit être respecté et traité conformément au souhait du mort, mais ce n'est plus une personne. Seuls les humains ont-ils conscience de la mort ? Encore une question. Le comportement d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, de grands singes donne le sentiment qu'ils ont des pratiques funéraires, même si elles ne laissent pas de traces. Mais les humains ont bien leur rituel, qui ne laisse pas de traces non plus. La mort est un enchaînement, je cite, « un enchaînement de ruptures, biologiques, sociales, mémorielles, qui s'étale sur le temps long, en suivant, selon les croyances, une frontière subjective et perméable. La diversité des pratiques funéraires tout au long de notre histoire témoigne de la richesse de sa représentation. » Au fil des pages, vous retrouverez la toilette du mort, les pleureuses, les veillées funéraires, les embaumements. À quel élément confier le corps ? Les quatre éléments, la terre, l'air, la mer, le feu. Songeons qu'en 2020, puisqu'on parle du feu, 40% des corps en France font l'objet d'une crémation. On pourrait aussi s'étonner des pratiques insolites comme le démembrement du corps. Rappelons-nous que le dernier corps démembré en France fut celui de Gambetta, en 1882, dont le cœur repose au Panthéon. Une pensée aussi pour Chopin, dont le cœur est à Varsovie et le corps au Père Lachaise. Les funérailles, les tombes, les banquets funéraires sont analysés par Fanny Bocantin depuis l'Antiquité. Les tombes gauloises, jusqu'à nos jours, sur tous les continents. La mémoire des défunts est un élément structurant de nos cultures, avec toute une réflexion sur les esprits. J'ai vraiment apprécié la réflexion sur les édifices qui exposent les ossements des morts, et je pense particulièrement à la chapelle des Capucins à Rome que j'ai eu l'occasion de visiter, c'est assez fascinant. Tout aussi étonnant la passion pour les cimetières. La place des cimetières dans la ville traduit bien notre conception de la mort. Vous comprendrez aussi pourquoi le 2 novembre est la fête des morts, et non pas le 1er novembre, qui est la fête de tous les saints dans la liturgie chrétienne, catholique particulièrement. Vraiment, c'est un livre synthétique, passionnant, clair, accessible, qui nous invite à comprendre avant de juger les pratiques des autres. Il donne à réfléchir sur les moments de deuil que nous avons pu connaître. Et je conclurai avec les propos de Fanny Bocantin. La mort, aussi douloureuse soit-elle, n'est-elle pas nécessaire à la vie ? C'est ce message qui nous est transmis par les traditions funéraires qui tentent d'inscrire l'humain dans un cycle cosmique universel en harmonie avec les mondes qu'il habite. Fanny Bocantin, La mort, édition CNRS, collection À l'œil nu en 2023. Vous verrez, c'est un livre tout à fait intéressant, accessible, je l'ai déjà dit, clair, je me répète, merci. Merci Fanny Bocantin de ce livre de synthèse. Frédéric, est-ce que nous pourrions passer de Georges Brassens, Les funérailles d'antan ? Frédéric ?
Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain, de bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Y a un mort à la maison, si le cœur vous en dit, venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux, quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan ? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre, elles sont révolues.
elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards tombent au grand ouvert, emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine, des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, 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 macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil, où quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, 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 macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
Eh bien, merci à Georges pour nous avoir parlé des funérailles. Je vous invite à découvrir le Monde de Libertaire de novembre 2023, qui est consacré au racisme. Et pour aujourd'hui, eh bien, c'est terminé. Nous avons fait le tour des livres que nous souhaitions vous présenter. J'avais pensé aussi vous parler d'un livre de Tardy, avoir 20 ans en mai 1871, publié aux éditions Martin de Halleux, et puis un livre de Marc Ternant et Éloi Valla, Le Temps des Cerises, promenade dans le 20e arrondissement. On en reparlera le 22 novembre, c'est-à-dire dans 15 jours. Je ne voudrais pas aller trop vite dans cette présentation, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez de toute façon aller voir sur le site du Monde Libertaire, dans la rubrique des idées et des luttes, j'ai présenté ces deux livres. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 22 novembre 2023, nous recevrons Jean-Guy Boin, un ami de François Gèze, celui qui a créé les éditions de la Découverte, prenant la suite des éditions Maspero, pour parler du livre de François Gèze, sur le livre, la double nature du livre, publié aux éditions Les Belles Lettres, et pour aussi rendre hommage à ce grand éditeur, à la grande curiosité. Nous en parlerons dans 15 jours. D'ici là, bonne lecture. L'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager.
mort des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Femmes qui se libèrent,
femmes qui prennent la parole,
femmes qui témoignent,
femmes qui créent,
femmes qui se révoltent,
femmes qui luttent,
ces femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble le libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonjour à toutes et tous, c'est la 38e émission de cette année 2023, une émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, en fait tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste, avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Voilà, et l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre sur notre blog, bien c'est emission-femmeslibres.blogspot.com. On peut donc réécouter l'émission, on peut avoir le programme, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. 3 temps dans l'émission. Un petit temps, féminicide par compagnon ou ex, un temps de l'ordre d'un vrai dossier avec Lara Schildkneck, je sais pas comment. Bon, on va reprendre tout ça tout à l'heure. Pour le livre Hardi Compagnon chez Libertalia, qui est sorti au printemps 2023. Et puis, on aura un temps de communiquer d'informations et de rendez-vous. On démarre avec la rubrique Féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
en Tunisie, domestique. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son
père. Jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
88, c'est le chiffre recensé dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2023. Et c'est un chiffre à minima. Depuis le 1er janvier 2016, les militantes féministes anonymes du collectif Féminicide par compagnon ou ex recensent les femmes victimes de ces crimes conjugaux en France métropolitaine, mais aussi dans les dom-tom. Le collectif s'attache également à décrypter les mécanismes de ces crimes systémiques et du patriarcat. Alors 88, c'était le chiffre de la semaine dernière. Ça veut dire que